La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur Europe 1, la semaine politique désormais tous les vendredis de 18h à 19h avec les rédactions de Paris Match, d'Europe 1 et du Journal du Dimanche. Nous allons passer en revue les temps forts de la semaine, les discours, les petites phrases, les coulisses, les malaises, les couacs, les mésententes, les alliances, les surprises, les coups de Trafalgar dans le dos ou les mains tendues, c'est selon. Le premier tour de la présidentielle, c'est dans 86 jours exactement. Et cette semaine a été marquée par la crise à l'école, bien sûr. Les profs et les parents d'élèves sont sortis dans la rue pour crier leur mécontentement face à la crise sanitaire qui rattrape les cours. Jean-Michel Blanquer a fait son mea culpa. Emmanuel Macron aurait bien aimé éviter ce pataquès. La crise de l'énergie. Bruno Le Maire qui est venu rassurer les Français. Brigitte Macron, démineuse de la phrase choc de son mari. Et Valérie Pécresse, réduite à prendre le train à 5h du mat plutôt que les Falcons de la République. Et après, à 18h30, le portrait politique, aujourd'hui celui de Marine Le Pen, à lire dans Paris Match cette semaine. Marine Le Pen qui en est à sa troisième campagne présidentielle, 2012, 2017, 2022. Il y a encore quelques semaines, beaucoup de monde la voyait au second tour face à Emmanuel Macron, mais Éric Zemmour lui prend des voix, Valérie Pécresse s'est déclarée. Comment résiste-t-elle? Comment mène-t-elle sa campagne? Et surtout, quelle femme politique, quelle femme tout court est-elle? Nous en parlons jusqu'à 19h avec Bruno Jeudy, bonsoir. Rédacteur en chef politique de Paris Match avec Louis Dragnel.
Ben j'entends rien du tout, c'est ça le problème.
Bonsoir à Louis Dragnel.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Chef du service politique d'Europe 1 et Pascal Saut, bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Nous rejoindra aussi tout à l'heure Alvaro Cadovas, le photographe qui a accompagné Mariana Grépinet sur le portrait de Marine Le Pen. À 19h, le journal. Et à 19h15, l'invité politique, désormais aussi tous les vendredis. Aujourd'hui, le philosophe Gaspard Koenig, dernier déclaré des candidats à la présidentielle. Il entend simplifier la vie des Français. Oui, mais comment? Et surtout, quoi d'autre? Gaspard Koenig de 19h15 à 20h sur Europe 1 tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, la mort de Jean-Jacques Benex, des suites d'un cancer. Le réalisateur avait 75 ans. Il s'était fait connaître notamment par son film 37 de le matin, histoire d'amour fou, destructrice entre Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle. Jean-Jacques Benex s'était confié sur Europe 1 sur la sortie de son film. C'était en 2006.
J'étais à Chicago, je présentais le film et j'étais dans le hall parce que j'aime pas revoir le film, mais j'écoutais quand même. Hein. Et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre, il y a un type qui sort de la salle, il fait quelques pas dans le hall et il est tombé de toute sa hauteur en arrière. Boum! Je le regarde et mes souvenirs de médecine, je me dis merde, il nous fait une crise d'épilepsie, qu'est-ce qui se passe? Je m'approche de lui et il me fait non, ça va. Il est trop fort votre film. Ah non, mais il est trop fort. Ouais. Et petit à petit, il va mieux, il se relève, il fait « Je viens de vivre une histoire qui est exactement celle que vous racontez. » C'est trop.
Voilà donc les mots de Jean-Jacques Benex sur Europe 1. C'était en 2006. Dans l'actualité également, Cédric Jubilard reste en prison. Sa troisième demande de remise en liberté a été rejetée. Cédric Jubilard, soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine, disparue en décembre 2020 dans le Tarn. La saga Djokovic relancée, après avoir annulé son visa, les autorités australiennes ont accepté de différer l'expulsion du numéro 1 mondial jusqu'à ce que la justice ait statué sur son cas. Le gouvernement qui compte toutefois ordonner son retour en rétention dès demain matin. Le foot, coup d'envoi de la 20e journée de Ligue 1. Nice reçoit Nantes ce soir à 21h. Et l'arrivée du Dakar endeuillé. Un chef mécanicien français âgé de 20 ans a été tué dans un accident de la route en marge de la course. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouvelle émission. Il est 18h.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD,
Pierre de Villeneuve.
Ce sera donc comme ça tous les vendredis à 18h sur Europe 1. Nous sommes en année présidentielle, le premier tour c'est dans 86 jours. Les candidats sont en campagne, ils partent à l'assaut des villes, des bourgs, des villages. Ils cherchent des voix, pour certains ils cherchent des parrainages. Le président sortant n'a pas pris sa décision, dit sa femme cette semaine, mais il a envie et il défend et fait défendre le bilan de son quinquennat écoulé. Tous les vendredis, donc de 18h à 19h, on se retrouve avec les rédactions de Paris Match et du JDD. Nous allons reparler de l'école et de Jean-Michel Blanquer, évidemment, dans quelques instants. Mais la phrase de ces dernières heures, elle est signée Marine Le Pen, dont on va justement beaucoup parler tout à l'heure. Marine Le Pen en déplacement sur la baie de Saint-Brieuc, admirant les éoliennes. Enfin, admirant, c'est tout le contraire.
Ce parc là, éolien, ce sera un des évidemment premiers que j'arrêterai moi si je suis élu président de la République, parce qu'encore une fois, c'est une absurdité écologique, économique, stratégique. Voilà, je rappelle quand même que l'intégralité de ce champ de l'équivalent de 62 tours Montparnasse va produire à peine 15% de ce que produit un EPR. Et que l'électricité qui va être produite sera, alors que l'électricité moyenne nucléaire est entre 45 et 47 euros, elle sera rachetée 155 euros. Donc je veux dire, on est vraiment dans un processus qui est une absurdité.
Voilà, Marine Le Pen sur la baie de Saint-Brieuc avec ses éoliennes au loin. Il y a 10 ans, on parlait des éoliennes, il y avait beaucoup de débats là-dessus. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie du débat présidentiel, Louis Dragnel.
Et oui, et ça fait particulièrement partie du débat présidentiel qu'on a des gros problèmes capacitaires en ce moment de fourniture d'énergie. Je ne sais pas si vous avez suivi les annonces là, récentes, en tout cas entre hier soir et ce matin. Et d'ailleurs, nous l'avons révélé ici même au micro d'Europe 1 sur EDF, la non-réouverture notamment de 4 réacteurs dans la centrale de Chaux et de Civaux avant la fin de l'année 2022. Et donc on voit bien que, vous savez, que, enfin, juste un petit chiffre quand même, EDF va battre un record historique. Ça va être l'année où cette entreprise aura produit le moins d'énergie depuis sa création. Mmh. Et du coup, on voit bien, en fait, on est confronté à des besoins énergétiques qui sont croissants. Et de l'autre côté, il y a toujours ce débat nucléaire ou pas. Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps à faire sa mue. Au début de son quinquennat, il hésitait. Il était aussi un peu lié psychologiquement et politiquement avec les Verts qui essayaient de le convaincre d'arrêter sur le nucléaire. Et puis finalement, il s'est converti publiquement. Il a expliqué qu'il était pro-nucléaire. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un sujet qui est à la fois politique. On voit bien l'aile droite de la classe politique et s'engouffre dans le tout nucléaire. Et Marine Le Pen fait partie de ça, et donc sa déclaration s'inscrit là-dedans. Et de l'autre côté, vous avez les écologistes et une partie de la gauche qui continue de s'entêter à être anti-nucléaire, pro-éolien. Il faut quand même rappeler que le nucléaire, c'est une énergie qui est stable, qui consomme assez peu, qui rejette aussi assez peu de enfin, qui n'est pas mauvaise pour l'environnement.
Qui n'est pas dangereuse pour l'environnement.
Et surtout, c'est une énergie stable. C'est-à-dire qu'on peut régler, le bouton qui permet de produire plus ou moins, alors qu'avec l'éolien, on est dépendant du vent.
C'est une infime partie pour l'instant, effectivement, de l'énergie produite. Pascal Sceaux, journal du dimanche.
C'est pas très étonnant en même temps que Marine Le Pen ait fait cette déclaration. Le Rassemblement national et elle-même ont toujours été favorables au nucléaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Louis Dragnel parlait de la conversion du président de la République au nucléaire. En fait, elle s'est vraiment manifestée de manière très importante, y compris au niveau européen. La France a fait un lobby très important et a obtenu gain de cause pour que, précisément, le nucléaire soit reconnu comme une énergie de transition importante à retenir jusqu'en 2050. Donc ça, c'est un point important. Et il y a un deuxième point, je crois, qui a bien surgi, là, on l'a bien compris ces derniers jours, c'est la question du prix de l'électricité. Et ça, c'est important dans le cadre d'une campagne présidentielle, parce que...
D'ailleurs, Le Maire a fait le service après-vente, on l'entendra tout à l'heure.
Hein. Bien sûr, oui. Les gens ont vu leurs factures exploser. On a parlé d'une augmentation de 400%, donc c'est considérable. Ça amène cette déclaration du gouvernement limitée à 4% pour l'année 2022, l'augmentation. Mais évidemment, dans cette perspective-là, la défense du nucléaire, c'est une manière de défendre à la fois une souveraineté énergétique et en même temps la garantie d'un meilleur contrôle du prix.
Bruno Jeudy est avec nous également. Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Bruno Jeudy, sur cette déclaration de Marine Le Pen concernant l'éolien.
Bon, elles sont sans surprise. On connaît sa position. Je voudrais simplement quand même ajouter, ou du moins apporter deux éléments pour la sagacité de nos auditeurs. Un, par rapport à ce que disait Louis, je suis d'accord, effectivement, c'est une énergie décarbonée. L'Europe a même décidé que c'était une énergie propre. À ceci près qu'il y a un problème avec le nucléaire, il faut le dire, moi je suis plutôt partisan du nucléaire, c'est la question des déchets qui n'a pas été véritablement réglée et qui est un énorme problème. Et il faut savoir que cette question-là, aujourd'hui, elle pèse y compris sur les coûts sur le coût du nucléaire, et c'est l'un des handicaps de ce type d'énergie. La deuxième chose par rapport à ce que disait Pascal, et je suis également d'accord, c'est que la conversion d'Emmanuel Macron est extrêmement récente. Souvenons-nous, pendant le congrès des Républicains, il y a Xavier Bertrand qui fait une grande sortie sur le nucléaire. Alors, hasard du calendrier ou pas, quelques jours plus tard, c'est le président qui annonce son grand plan nucléaire, toujours prompt à disputer les thématiques qui sont très populaires à droite, parce qu'on sait que la question du nucléaire ne fait pas du tout de débat à droite, où c'est une question qui fait l'unanimité, qui le faisait déjà en 2017, qui l'a fait encore cette fois-ci en 2022. C'est sans doute la seule formation politique où il n'y a pas de débat. Même chez les marcheurs, il y a un débat, on n'entend pas trop, mais tout le monde n'est pas sur cette ligne-là. Je crois que globalement, sur cette énergie-là, qui est évidemment une énergie d'avenir, et la France a un vrai atout avec le nucléaire, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui notre parc est vieillissant, que la construction des centrales met beaucoup de temps. Oui. Et on l'a vu notamment dans la fameuse centrale là, qui n'en finit pas de sortir
Flamanville.
De terre, Flamanville, pour tenir les objectifs d'économie d'énergie de 2050, ceux qui ont été fixés par les accords de Paris. Il y a eu un rapport qui est sorti récemment, le rapport s'appelle RTE, et dans les différents scénarios qui sont envisagés, il est impossible de tenir les objectifs sans avoir recours à l'éolien et aux autres énergies renouvelables, parce que nous n'aurons pas le temps tout simplement de construire de nouvelles centrales. Il faut au moins 10 à 15 ans pour en construire.
Donc, ouais, et le renouvelable, ça fait partie notamment, les éoliennes font partie du renouvelable.
C'est pour ça que tous ces débats autour de le tout nucléaire, de toute façon, on ne peut pas miser que sur le tout nucléaire, ça prend trop de temps pour construire des centrales, pour tenir nos objectifs de 2030, des objectifs immédiats. Hein. Et donc, il faut forcément aller vers un mix énergétique, il n'y a pas le choix. C'est la solution d'ailleurs que Emmanuel Macron défend, mais au voce, parce qu'aujourd'hui, alors le solaire, c'est un peu plus facile que l'éolien. Il faudra recourir, à mon avis, à toutes les solutions.
Louis Dragnel.
Moi, ce que j'observe aussi, que je trouve intéressant, c'est la levée d'un tabou, c'est la laideur des éoliennes. C'est quelque chose, non mais c'était quelque chose qui était un débat totalement interdit il y a quelques années, parce qu'on expliquait en fait, notamment à des agriculteurs, il faut expliquer quand même que les éoliennes, on les plante principalement
dans des champs,
des endroits assez aérés, et on expliquait aux agriculteurs que c'était pour leur bien, et qu'en fait, ils avaient tout intérêt à accepter, à accueillir ces éoliennes, et on voit ce mouvement de protestation d'agriculteurs qui n'avaient pas la parole, et à qui maintenant on la donne, et qui expliquent, mais nous on n'en veut pas, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette corrélation à la fois de ce débat sur l'esthétique, le beau et le laid, où de manière, je pense à Stéphane Bern, il y a eu plein d'appels.
Oui, effectivement, il y a une grande pétition contre les éoliennes.
Avec des gens qui s'engagent de manière extrêmement ferme. Et ça a un écho, un retentissement extrêmement fort. Et donc, cette corrélation entre le débat esthétique et le débat sur l'efficacité. Et où, clairement, de plus en plus, et on voit Marine Le Pen appuie là-dessus, dans ce qu'elle dit, sur le fait que ce n'est pas efficace, ça coûte très cher, et c'est surtout un système assez fragile.
Et puis c'est une parole politique, parce que c'est ce qu'on appelle le détricotage. C'est-à-dire que c'est en place, moi, finalement, je vais l'annuler. C'est-à-dire que ça a l'air simple comme ça. Oui, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué.
Globalement, Valérie Pécresse dit à peu près la même chose. Tous les candidats de droite disent la même chose. Emmanuel Macron, je crois, ne s'est pas exprimé sur le débat esthétique.
Pas encore, attention.
Mais en privé, il reconnaît auprès de beaucoup de personnes que c'est horrible et que s'il avait un champ ou s'il avait un grand jardin, il détesterait avoir un mât avec ces éoliennes qui tournent au fond de son jardin.
Pascal Saud, du
journal. Oui, un autre point qui n'est pas peut-être mis en avant suffisamment, mais qui a
après,
joué...
Après, on va parler de l'école, hein, parce que c'est un point important.
Qui joue en faveur du nucléaire, c'est le contre-exemple allemand. Nos amis allemands ont renoncé au nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas de nucléaire, du charbon.
Ouais,
et le charbon,
c'est retour à la case départ.
C'est retour à la case départ, c'est retour à des conditions de pollution graves.
Même s'ils misent beaucoup sur les renouvelables, sur l'hydrogène,
Choses. Quand même du charbon. Donc, donc le nucléaire, c'est mieux que le charbon, finalement.
Alors, le sujet de la semaine, c'est bien entendu l'école, avec le pataquès sur les tests, en cas d'enfant positif, enfant de moins de 12 ans, de plus de 12 ans, cas contact, positif, les tests, J+0, +2, +4, finalement assouplis. Casse-tête pour les parents, casse-tête et angoisse pour les profs. Jean-Michel Blanquer, ce matin, fait son mea culpa.
Écoutez, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, Je crois que c'est le propre de l'être humain et cela m'arrive évidemment et je n'ai aucun problème à dire que je suis désolé de certaines choses. Mais c'est important aussi de peut-être pas être dans des logiques de cristallisation excessive sur une personne quand on connaît le processus de décision.
Voilà ce que dit Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, c'est du pain béni pour les autres candidats. Écoutez Jean-Luc Mélenchon hier après-midi dans le cortège avec les profs et les parents d'élèves.
C'est ça qu'a réussi Blanquer. Hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à mettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, bah non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Hein. Bon, c'est quand même. Faut laisser leur chance, hein. Faut laisser leur chance aux bons à rien. Ben oui, aussi, il y en a.
Bon, là, on est en campagne présidentielle, on peut dire ça, hein, Pascal Sceaux.
Oui, clairement, clairement. Oui, là, c'est caractéristique de Jean-Luc Mélenchon. Des propos agressifs et ironiques à la fois.
Mais ça marche encore, ça?
Ça peut marcher auprès du public qui l'entourait à ce moment-là.
Ses électeurs.
Ses électeurs, ouais. Les enseignants, quelques parents d'élèves, peut-être. Après, je ne crois pas que ce soit le fond du problème. Le fond du problème, c'est quand même que... Dans une situation qui est aussi compliquée, qui dure depuis aussi longtemps, ça fait quand même 2 ans maintenant qu'on est dans cette pandémie, y a une nécessité pour l'État et pour le gouvernement d'être simple dans ses décisions, d'être compréhensif. Mmh. Et là, c'est vrai que là, ça tournait au casse-tête. On avait l'impression que ça changeait tous les jours. On ne savait pas combien, comment faire gérer par les enfants, comment les profs se font. Ils sont face en classe à des élèves qui éventuellement ne sont pas vaccinés parce qu'ils sont trop jeunes.
Oui, d'où la crainte donc, des profs.
Donc, ouais. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y avait un espèce de pataquès, là, pour le coup, que les décisions du gouvernement et du ministre de l'Éducation n'ont pas aidé à clarifier, à simplifier. Et c'est un peu ça qui paye. Je veux dire, c'est cette espèce de flou qui a été entretenu et qui suscite une sorte d'exaspération à un moment qui peut être compréhensible.
Bruno Jeudy, pour Paris Match, sur la question de l'école.
Sur la question de l'école, je crois qu'effectivement, il a raison de se défendre, Jean-Michel Blanquer. Il porte un chapeau, on lui fait porter un chapeau un peu grand, parce qu'il n'est pas le seul à avoir validé ce protocole. Il est passé par les hautes autorités de santé, au comité des politiques publiques. Enfin bon, voilà, alors sans doute que, évidemment, tout ça est arrivé tardivement. La
communication, oui, alors que les syndicats de profs disent, ben non, il décide tout seul dans son ministère, on n'est jamais convié. Donc,
Ça, c'est faux. Ouais. Il n'a sans doute pas assez concerté avec la communauté éducative et il a placé ses directeurs d'établissement dans une situation improbable et absolument ingérable et s'en est suivi une grande pagaille à l'école. Et pour le gouvernement et l'exécutif, c'est très embêtant parce que l'école, c'était justement un des étendards de cette crise sanitaire. La France est le pays qui a sans doute laissé l'école le plus longtemps ouverte. Le ministre en avait fait le titre de son livre de la dernière rentrée. Et là, finalement, ils sont en train de perdre la main sur quelque chose qui était positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher ? Qu'est-ce que, au fond, Jean-Michel Blanquer a sans doute été trop haut fonctionnaire et pas assez politique dans cette affaire. À un moment, peut-être que lui, il aurait dû dire au directeur de cabinet de Matignon ou au secrétaire général de l'Élysée, à tous les hauts fonctionnaires qui, dans ces cas-là, chapotent le processus normatif si français, il aurait dû dire, c'est pas jouable, c'est pas tenable. Sans doute un manque d'expérience politique, c'est assez... Et d'ailleurs, on voit bien, il est ennuyé, il est embêté, Jean-Michel Blanquer. Alors après, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Les syndicats enseignants essaient de prendre leur revanche sur un ministre qu'ils n'aiment pas beaucoup. Ce qui est navrant pour lui...
Mais est-ce que ce n'est pas monnaie courante pour les syndicats d'enseignants qui, généralement, n'aiment pas leur ministre ?
Si, c'est monnaie courante, Pierre, mais simplement, là, dans cette affaire, nous sommes face à quelque chose d'assez inédit cette fois-ci. Les parents d'élèves se sont solidarisés avec les enseignants, les syndicats d'enseignants, et surtout, il n'y avait pas que des enseignants. Ça a touché toutes les professions de la communauté éducative, même jusqu'aux inspecteurs qui étaient en grève. Et ça, quelque part, c'est quand même assez problématique à quelques semaines de la présidentielle. Personne n'était content. D'ailleurs, Emmanuel Macron a taclé son ministre la semaine dernière comme au bon vieux temps de quand Jacques Chirac lâchait son ministre. Et le Premier ministre, lundi soir, est allé sur le plateau de France 2 rayer d'un trait le protocole qui était encore défendu par son ministre le matin. Donc le spectacle est absolument désastreux. Encore une fois, c'est trop facile de faire porter ça uniquement sur les épaules de Jean-Michel Blanquer. C'est tout l'exécutif, tout le gouvernement qui a eu tout faux sur cette séquence.
Louis Dragnel d'Europe 1.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Bruno Jeudy. si vous voulez, moi-même, je ne suis pas en d'élèves, c'était un
mais
enfer
pas
absolu. Je
ne
suis pas enseignant, non, mais puisque je suis ici même, merci Pierre. mais c'était un enfer absolu. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas un parent d'enfant, d'élève, qui n'a pas pesté contre Jean-Michel Blanquer ou contre l'éducation nationale ces dernières semaines, parce que c'était quand même très compliqué de
peut-être
s'y retrouver.
Peut-être pas forcément ad hominem.
Peut-être pas ad hominem. Mais en tout cas,
comme vous, on a pesté contre un système, on n'a pas pesté forcément contre un ministre.
Non, mais vous avez raison. Alors, chacun y trouve son bouc émissaire, mais les gens ont besoin de râler, donc ils ont besoin d'évacuer leur ras-le-bol. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, on est en pleine campagne présidentielle, et donc les oppositions ont trouvé un maillon faible dans la Macronie. Et de fait, en plus, Jean-Michel Blanquer a été... il y a eu une mise en scène de différends, notamment avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que Jean-Michel Blanquer...
Rappelez-nous cet épisode.
Non, mais c'est un épisode juste avant le Conseil des ministres cette semaine. Ils ne sont pas empoignés, mais où Jean-Michel Blanquer a reproché à Olivier Véran, le ministre de la Santé, son manque de solidarité. Voilà. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Jean-Michel...
Ça rajoute au pataquès.
Voilà, Jean-Michel Blanquer, il est ministre de l'Éducation nationale. Les questions sanitaires, au fond, ça l'intéresse assez peu. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire, et je pense que les auditeurs qui écoutent vont se dire, oui, mais c'est quand même son boulot de s'occuper de l'accueil des enfants, et donc les questions sanitaires doivent l'intéresser. C'est une obligation, il n'a pas le choix. Et lui-même, en fait, est soumis aussi aux injonctions du ministère de la Santé et doit décliner de manière très concrète et pragmatique un cadre général sanitaire qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre auprès d'un public d'enfants. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas forcément dire que Jean-Michel Blanquer a tout bien fait, a tout réussi. Je trouve simplement que, et pour terminer, il a fait son mea culpa, il a bien fait de le faire. Moi, je trouve que quelqu'un qui s'excuse et qui demande pardon politiquement,
c'est assez inédit.
C'est suffisamment rare pour le saluer et souligner que c'est
peut-être
c'est
pas inédit, mais rare. Vous avez
raison.
C'est
quand même un comportement plutôt vertueux, non, Pierre?
Louis de Raguenel d'Europe 1. Pascal Saud du journal.
Oui, juste un mot dans ce que vient de dire Louis. Il y a deux mots qui sont importants et qui jouent un rôle important dans cet épisode. C'est campagne présidentielle, évidemment. C'est-à-dire que si ça s'était déroulé dans des conditions différentes, peut-être que ça n'aurait pas eu
Il n'y aurait pas eu d'excuses,
même...
à votre avis? Il n'y aurait pas eu ce sort de mea culpa?
Peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'excuses. Il n'y aurait pas eu de mise en scène de cette difficulté, de cet affrontement entre ministres au sein du gouvernement et
Vous parlez carrément de mise en scène.
Oui, je pense. Oui. Ce que les oppositions en font, ce qui est normal dans le cadre d'une campagne présidentielle. Mais... on comprend qu'il y a un enjeu qui était très important et qui est très important pour le futur candidat Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, le fait d'avoir laissé les écoles ouvertes, c'est à son crédit. C'est quelque chose qu'il met en avant. Ce matin, on a entendu encore Brigitte Macron qui s'est exprimée.
On va l'écouter tout à l'heure.
Et qui est revenue sur ce point. Elle a dit, on a réussi à laisser les écoles ouvertes à la différence de beaucoup des pays voisins de l'Union européenne qui ont dû être beaucoup plus fermeurs.
Elle est bien placée pour en parler. Ouais.
Et donc, si jamais ce bilan, cet aspect du bilan qui apparaît comme positif est remis en cause par ce problème provoqué par Jean-Michel Blanquer et le gouvernement, c'est un problème pour le candidat.
L'école, mais pas que, la semaine politique continue sur Europe 1. On est avec Paris Match et le journal du dimanche. Restez avec nous, 18h18, on revient dans un petit instant.
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Suite de la semaine politique sur Europe 1 avec Paris Match et le journal du dimanche avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique de Paris Match et Pascal Saud, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Jusqu'à présent, nous savions que le président actuel avait l'envie d'y aller, l'envie de se représenter jusqu'à présent. Car ce matin, la première dame en a dit un petit peu plus.
Il en a très envie, mais la décision n'est pas encore prise. Donc j'apprendrai, je lui ai dit, cette décision. Tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres. Nous en parlons.
Oui, j'allais dire, mais c'est une décision qui se prend à deux.
Pas celle-là.
Non ?
Pas celle-là, absolument pas. Non. Pas celle-là, c'est trop important. Il faut sentir, comment dirais-je, il faut sentir sa relation avec les Français. Les Français qui vous veulent aussi, ceux qui ne vous veulent pas. Il faut sentir où vous voulez les emmener, pourquoi vous voulez les emmener là-bas.
Mais il vous demandera votre avis, quand même. Hein.
Je lui ai demandé de ne pas me le demander.
Voilà ce que dit Brigitte Macron. Donc, finalement, statu quo, j'ai dit qu'on en savait un petit peu plus, en réalité. Pas tellement. Mais sur la phrase, et on va encore entendre Brigitte Macron, sur la phrase « emmerder les non-vaccinés », Brigitte Macron justifie, on est un peu sur le mode de sauver le soldat Ryan.
Emmanuel Macron, Emmanuel parle très franchement, parle très cash, très et nuit et jour, il s'occupe de la crise sanitaire.
Voilà ce que dit la première dame. C'est rare quand même de l'entendre, la première dame, Pascal Sceau.
Oui, c'est rare, effectivement. Mais bon.
Je tiens à dire quand même que là, on a entendu quelques reprises. On a laissé le son tel quel, c'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, elle se reprend. Donc, je ne sais pas si elle est un peu mal à l'aise ou si elle a du mal à.
Non, elle est peut-être. Je ne crois pas qu'elle soit surprise par la question, en fait.
Mais j'espère.
Ce qui peut étonner un petit peu, ce n'est pas tellement la question de savoir si Emmanuel Macron sera candidat. Ça ressemble un petit peu à un secret de Polichinelle. On a bien compris qu'il serait candidat. Mais ce qu'on a compris aussi, c'est que pour lui, le problème, c'est comme pour les fusées, c'est l'entrée dans l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est le moment le plus dangereux où il peut y avoir un accident, où la situation qui est favorable pour lui en ce moment pourrait se retourner ou au moins se dégrader. Donc on voit bien que tout l'enjeu pour lui, c'est de réussir sa déclaration officielle de campagne, de passer du statut de candidat putatif que tout le monde attend au statut de candidat officiel. Comment faire ? Comment réussir cette entrée dans l'atmosphère de la campagne.
Comment est-ce que vous avez jaugé cette pudeur de Brigitte Macron, Louis Dragnel ?
La première chose, c'est que pour une première dame, c'est toujours très compliqué de s'exprimer sur des sujets politiques. En fait, d'ailleurs, elle a un statut qui n'est pas simple. En fait, on lui demande d'être partout, de sourire, d'être gentille avec tout le monde, de surtout pas faire de politique. Et quand les journalistes l'invitent, c'est évidemment... pour lui parler de politique, il faut quand même rappeler le contexte de son intervention, c'était pour parler des pièces jaunes.
Exactement.
On est un tout petit peu loin du sujet.
Après, elle s'y attend.
Voilà. Alors, elle s'y attend et si elle accepte ce rendez-vous, elle sait aussi que, voilà, on va peut-être lui poser des questions qui intéressent au moins quelques Français. Ensuite, on voit bien, elle dit objectivement pas la vérité. On n'imagine pas un seul instant qu'avant de prendre une décision aussi importante qui contraint votre vie personnelle pendant 5 ans supplémentaires, elle n'en ait pas parlé avec son mari ou qu'elle ne donne pas son avis. D'autant plus qu'on sait très bien que dans le couple, c'est un peu people. Là, on rentre dans quelque chose qui s'éloigne un peu de la politique, mais on revient tout de suite après à la politique. Mais on sait bien que Brigitte Macron parle énormément à son mari, lui donne des conseils, a des avis très tranchés.
Mais elle se garde les nominations.
Exactement, mais elle se garde bien, en revanche, publiquement, d'en parler. Donc ça, c'est par rapport à quand elle explique que ça ne le regarde que lui,
oui, que c'est une décision
et qu'elle sera informée en même temps
Que
les Français. Ça, pour le coup, on n'est pas obligé de la croire, de manière très honnête et sincère. En tout cas, c'est, voilà. Ensuite, ce qui est assez étonnant, c'est que il y avait beaucoup de gens qui disaient, à la suite de l'intervention de Brigitte Macron, qu'elle entretenait le doute sur la possibilité de la candidature de son mari. En réalité, moi, je crois tout le contraire. Elle entretient la certitude. Parce qu'en fait, elle est en train de valider son choix. Elle reprend ses mots en disant, vous voyez bien, j'ai lu comme vous tous que Emmanuel Macron a très envie d'y aller et tout ça. Donc en fait, si vous voulez, c'est une stratégie un peu... C'est comme quand on construit une série Netflix. La construction qui amène à la déclaration, la construction politique qui amène à la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, ce sont... plein de petits cailloux comme ça qui sont posés. C'est une chronologie. Et donc, il y a eu la séquence sur TF1 où Emmanuel Macron a essayé d'apparaître le moins clivant possible, le plus bienveillant. Il était presque un peu mou dans cet entretien. Là, donc, il y a Brigitte Macron.
Et puis, il y a eu l'article dans Le Parisien.
Il y a eu l'interview dans Le Parisien.
Où là, pour le coup, justement, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés.
Et j'ai aussi très envie d'aller à la présidentielle.
Aussi.
Mais le moment n'est pas opportun et tout ça. Bref, bon, tout ça est fait, en fait, pour amener, c'est en tout cas l'état d'esprit des conseillers d'Emmanuel Macron. Ce qu'ils veulent, c'est que la candidature d'Emmanuel Macron soit considérée comme un non-événement et comme une évidence. Et donc, Brigitte Macron, quand elle dit ça, elle prépare en fait l'atterrissage le plus en douceur possible pour son mari, à qui elle souhaite évidemment, on l'a tous compris, de pouvoir poursuivre encore 5 ans à l'Élysée.
Et Bruno Jeudy de Paris Match, qu'est-ce qu'il en pense ?
Écoutez, pour reprendre l'expression de Louis, pour la première dame, c'était l'entrée dans l'atmosphère cette semaine. Alors, il y a eu deux.
Ah, c'est Pascal Sceau qui a le copyright sur l'atmosphère et la fusée.
Sur l'atmosphère.
Il y a tous les droits réservés.
non, mais bon, oui, effectivement,
je les partage volontiers avec Louis, il n'y a pas de problème.
Il y a cette opération piège jaune qui lui permet d'apparaître médiatiquement. Elle fait peu d'interventions médiatiques, finalement, Brigitte Macron, quand on regarde sur tout ce mandat. Elle a donné peu d'interviews. Et les pièges jaunes en sont l'occasion. Donc, il y a eu cette intervention. intervention sur TF1, ce matin sur RTL. Moi, je ne l'ai senti pas très, très à l'aise parce que, si vous voulez, c'est un peu l'entrée dans l'atmosphère. C'est la campagne qui commence pour elle. Elle sait qu'elle peut être un atout pour son mari. Je suis d'accord, il y a zéro doute. Et ce matin, elle n'a pas du tout entretenu doute. Mais on sent que, il faut aussi trouver les mots. C'est pas forcément facile pour elle puisqu'elle doit, elle ne peut pas dire mon mari est candidat. Elle invente une petite histoire à laquelle on ne croit pas du tout, parce que croire une seconde que Emmanuel Macron ne partage pas ça avec Brigitte Macron, Emmanuel Macron, chacun sait que c'est un président qui cultive la solitude, qui la met en scène et qui, en gros, a deux proches, son épouse Brigitte et son secrétaire général Alexis Kohler. Ce sont les deux seules personnes qui seront mises dans la confidence de la date de l'entrée officielle.
Ils savent peut-être déjà, hein.
Je suis pas sûr qu'ils sachent, parce que le problème, clairement, cette candidature, elle va se déployer entre la toute fin janvier et puis la première quinzaine de février. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même dépendant un peu de cette crise sanitaire, c'est-à-dire il faut que la vague Omicron soit passée pour que Macron se lance.
Et sur le parler cash, Bruno, sur le emmerder les Français en disant regardez, il parle cash, il est comme ça, Emmanuel, c'est comme ça.
Oui. Je suis pas sûr que c'était ce qu'il a fait de mieux ces derniers temps, même s'il en était très content, même si au fond les emmerdements ont été minimum dans les sondages pour lui. Le tableau de bord cette
reste
semaine
stable,
qui mesure les bonnes opinions pour le président reste stable à 43%. Donc tout ça est assez neutre, et dans les intentions de vote, on voit un président qui reste largement en pole position. Mais au fond, pour l'instant, c'est le président, c'est pas encore le candidat. On verra. Moi, je trouve que cette histoire de phrase, même si elle ne lui a occasionné aucun problème pour l'instant palpable dans l'opinion, elle ravive le Macron qui a multiplié les petites phrases et qui les a regrettées par la suite. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait un problème, même si sur le fond, ça visait les non-vaccinés, les anti-vax, et qu'ils sont assez peu populaires dans l'opinion.
Alors, on en parlait tout à l'heure, on parlait du prix d'énergie à l'occasion des éoliennes qu'est allée visiter Marine Le Pen. Enfin, visiter, pas exactement, mais en tout cas, elle s'est retrouvée face aux éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a assuré le service après-vente, justement sur le pouvoir d'achat et sur l'énergie. C'était dans le 13h de TF1 tout à l'heure.
Moi, j'ai la conviction que d'ici la fin de l'année 2022, cette inflation va diminuer, qu'aujourd'hui, on est au pic de cette inflation. C'est le moment où c'est le plus difficile. Donc, c'est le moment où, avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous agissons. La mesure qui vient d'être prise sur les tarifs d'électricité, c'est massif. Au 1er février, la facture des Français aurait dû augmenter de 35%. Nous avons limité cette hausse à 4%. Nous avons tenu la promesse qui avait été faite par le Premier ministre. Nous n'avons cessé d'agir depuis des mois. Pour protéger leur pouvoir d'achat, nous resterons vigilants, attentifs, tous les jours, dans les semaines qui viennent.
Bon, là, c'est vraiment du service après-vente. C'est la construction du tapis rouge pour Emmanuel Macron, hein, Pascal Sault, du JDD.
Tout à fait. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un message aussi en arrière-plan, je crois, qui est que Emmanuel Macron, son entourage, ses ministres, son gouvernement ont bien compris que le pouvoir d'achat, c'était aussi un élément majeur dans la campagne présidentielle.
Voire le point numéro un pour les Français. Hein.
Le point numéro un pour les Français, contrairement à l'apparence que peuvent donner les débats autour des questions de sécurité, autour des questions de l'immigration, autour des questions de l'école et du Covid, cette question du pouvoir d'achat, elle est centrale. Donc, il faut arriver à convaincre les Français qu'avec Emmanuel Macron, on va pas les ruiner. On ne va pas se trouver dans une situation où les prix vont augmenter. Et vous avez remarqué ce que disait Bruno Le Maire sur l'inflation, c'était intéressant parce que ça a reçu une sorte de confirmation cet après-midi par Christine Lagarde, donc qui est à la tête de la Banque Centrale Européenne, qui disait elle aussi qu'elle pensait que la tendance inflationniste allait s'atténuer d'ici la fin de l'année, qu'on allait revenir à une norme beaucoup plus douce et beaucoup moins forte. Pour évacuer cette crainte de hausse des prix considérable qui pourrait être pourrait plomber éventuellement la campagne d'Emmanuel Macron, parce que c'est à lui et à son gouvernement que l'opinion publique attribuera la responsabilité de ces hausses de prix.
Louis Dragnel de Robin.
Pascal vient de poser un sujet extrêmement important là pendant la campagne présidentielle, et d'ailleurs je m'étonne que les oppositions, et particulièrement la droite, n'attaquent pas Emmanuel Macron sur ce sujet. Aujourd'hui, la droite,
ça va peut-être venir ce week-end.
Non, mais attaque essentiellement Emmanuel Macron sur les dépenses, en expliquant que c'est beaucoup de dépenses et tout ça. Et je ne comprends pas qu'il n'attaque pas plus sur justement les conséquences de cette possible inflation, enfin cette inflation qui a commencé et qui pourrait s'aggraver. Il y a des avis assez divergents hein, quand même sur l'inflation qui pourrait... qu'on pourrait vivre dans les prochains mois. Et en fait, l'inflation, de manière très concrète, ça impacte la vie de tous les gens, de tous les Français. Et la droite pourrait attaquer Emmanuel Macron en expliquant, vous rendez compte, ouais. Le prix du beurre va augmenter, le prix de la baguette va augmenter. En gros, aujourd'hui, vous avez X%...
Serait le rendre responsable de l'évolution de l'économie de marché. C'est compliqué quand même.
Bah oui, mais en tout cas,
il y a des matières premières derrière.
Bien sûr, mais alors il y a le débat sur les matières premières, mais il y a aussi les conséquences de cette injection d'argent public dans l'économie qui mécaniquement favorise l'inflation. On sait qu'il y a des mécanismes pour essayer d'amortir les conséquences de cette injection massive, mais jamais on n'aura injecté autant d'argent public dans l'économie. Et juste un mot par rapport à ce que disait Bruno Le Maire sur le gouvernement qui fait tout pour pallier l'explosion du prix de l'énergie. Il faut quand même rappeler que pour permettre cette opération politique, parce que c'est une opération d'abord et avant tout politique, eh bien, le gouvernement est en train de sacrifier EDF. EDF qui est une entreprise privée, publique, avec des capitaux privés, c'est un peu hybride. Et figurez-vous que donc, la décision quand même qui a été prise, c'est de demander à EDF, qui est déjà endetté à hauteur de 50 milliards d'euros, d'acheter au plus haut sur le marché de l'énergie pour la revendre beaucoup moins cher à ses concurrents privés qui, eux, seront chargés de la distribution. Et globalement, ça pourrait être considéré d'ailleurs comme un transfert d'argent public vers des entreprises privées. Et donc, je trouve que le gouvernement, c'est un peu facile aussi de se servir d'EDF, qui ensuite, tout le monde va dire que c'est une entreprise mal gérée, tout le monde va critiquer. Vous savez, il est de bon ton dans la société d'expliquer qu'EDF, rien ne va, il y a le problème, ce sont des privilégiés, on entend toute une sorte de... Il y a beaucoup de critiques contre cette entreprise. Et en fait, cette entreprise aussi est malmenée, je trouve, par le gouvernement, puisqu'elle est en train de... Elle devient en fait un broker qui ne gagne pas d'argent, qui fait tout à perte, pour l'État, pour lui permettre de pouvoir satisfaire ses objectifs politiques.
Bruno Jeudy.
Oui, ils ont tout dit, Louis et Pascal, sur cette affaire. Bruno Le Maire est très fier du dispositif qu'il a mis au point, même si Louis vient de rappeler que à terme, ça mettait sans doute en grande difficulté, si ce n'est déjà pas le cas, EDF. Moi, quand même, sur la question de l'inflation, je me méfie, parce qu'il va falloir... Parce que bon, là, ils enjambent déjà l'année 2022. Moi, je crois que ça peut, à un moment ou à un autre, être un sujet quand même prégnant sur la campagne. La question du pouvoir d'achat, on voit, elle est quand même centrale. Ces questions-là vont évidemment l'impacter, notamment pour les classes moyennes. Xavier Bertrand avait prévu d'en faire un de ses grands sujets s'il avait gagné le Congrès. On va voir si Valérie Pécresse, à son tour, une fois qu'elle sera un peu sortie de sa séquence sécurité, puisqu'on voit que le mois de janvier, elle a décidé de rester sur ces questions sécurité-immigration. Il n'est pas dit que d'ici quelques semaines, elle ne monte pas en puissance sur cette question-là. Xavier Bertrand, en tous les cas, puisqu'elle dit que ces deux, au fond, les deux lignes sur lesquelles elle veut s'appuyer, c'est celle d'Éric Ciotti pour la sécurité, l'immigration, et celle de Bertrand pour les questions de pouvoir d'achat-travail. Donc on va voir. C'est pas dit que ce soit pas non plus un terrain de bataille pour la droite d'ici 2-3 semaines.
Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique de Paris Match. On se retrouve dans un instant avec vous également, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et le directeur adjoint de la rédaction du JDD, Pascal Sceau. On va se retrouver pour le portrait politique de la semaine. À chaque fois, un candidat. Aujourd'hui, Marine Le Pen dans Paris Match. Dans quel état d'esprit est Marine Le Pen? Elle a notamment montré son bureau secret à Paris. On a les photos pour vous. Restez avec nous, c'est Europe 1.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Bruno Jeudy, le rédacteur en chef politique de Paris Match, Pascal Sceau, le directeur adjoint de la rédaction du JDD, et nous a rejoint Alvaro Canovas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photoreporter et vous avez accompagné Mariana Grépinet dans justement la réalisation de cet article qu'on peut lire cette semaine dans Paris Match. Chaque semaine, je vous le disais, un portrait de candidat. Aujourd'hui, Marine Le Pen. Marine Le Pen, 53 ans. Elle en est à sa troisième campagne présidentielle. On va parler avec vous, Alvaro, et avec Bruno Jeudy de ce portrait. Mais d'abord, direction la Côte d'Émeraude, où vous étiez encore tout à l'heure. Sandrine Prioul d'Europe 1, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez accompagné toute la journée Marine Le Pen sur ses terres familiales en Bretagne. Sans parler du déplacement officiel de ce qu'elle a annoncé aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous l'avez trouvée, tout simplement, d'ailleurs, en tant que femme ?
En tant que femme de 53 ans, je l'ai trouvée exactement comme vous le disiez, à la fois routarde en fait de la campagne. On la sent déjà dans ses chaussons. Elle est détendue et puis elle enchaîne. Là, on était sur la côte nord de la Bretagne. Elle enchaîne les visites de ports. Elle est allée aussi sur le cap d'Erquy voir justement des chantiers éoliens en mer. Ça, elle a le look soigné avec les bottes de caoutchouc, la veste de car. Vous imaginez un petit peu que tout logeait dans le cadre. En plus, il faisait très beau. Et donc, du coup, elle enchaîne comme ça, elle déroule, comme on dit. Et puis, donc, du coup, elle enchaîne ses rencontres avec un électorat qui était assez ami. Elle est allée voir des pêcheurs, elle est allée voir des agriculteurs. Tout ça est assez rodé. On lui sent la force de l'expérience.
Le contact, justement, avec les gens qu'elle rencontre, il est comment ?
Il est comme on a toujours vu Marine Le Pen. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est détendue et puis qu'on sent que c'est une routarde, parce que si les gens viennent à elle pour lui raconter leur histoire, eh bien elle va les écouter,
les
leur quotidien, sûr, les ouais. histoires qui les touchent vraiment dans leur quotidien. Elle sera là justement pour les écouter, et ils repartent tous avec ce sentiment d'avoir été entendus. Ce qui faisait sa force le fait encore, à mon avis.
Merci beaucoup Sandrine Prioul pour ces quelques mots, et on vous retrouve bien sûr dans le journal tout à l'heure de 19h. Bruno Jeudy, le choix de ce portrait qu'on peut lire donc dans Paris Match, il s'est fait comment ?
En fait, Marine Le Pen, on attendait le moment pour la suivre sur la longueur. Elle a connu, vous l'avez décrit sur l'antenne, les difficultés, les grandes difficultés de l'automne et du début de l'hiver, où elle a été percutée de plein fouet par l'irruption d'Éric Zemmour. Elle a divisé par deux ses intentions de vote dans les sondages. On l'a vu vaciller, on l'a vu reprendre la main un petit peu avant Noël. Et en fait, on avait attendu le début de l'année pour voir sur quel pied, sur quel base elle redémarrait. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait à la fois Mariana Grépinet a fait une enquête, elle a un peu revu toute son équipe, comment elle s'organisait, et on a voulu voir comment aussi elle était sur le terrain, comment elle était accueillie. Donc on l'a suivi dans le Languedoc, Alvaro Canovas.
Il va nous en parler dans un petit instant.
Il va en parler sur les photos. Donc on a voulu voir où elle en était en ce début d'année, où au fond dans les sondages, elle a à la fois arrêté la descente aux enfers dans laquelle elle était engagée, et de manière presque sans fond, quoi.
Oui.
Et puis là, on voit bien que elle reprend la main. On sent toute l'expérience de la candidate et la normalisation. En fait, on a voulu voir cette dédiabolisation qui devient, à mon sens, une normalisation. D'ailleurs, elle le dit dans l'enquête de Mariana. Au fond, Éric Zemmour m'a offert la chance de me recentrer. Oui. Et Le Pen fille qui... Vous savez, Marine Le Pen et son père, c'est 8 candidatures à la présidentielle, oui, depuis le début de la Ve République. Donc, c'est quand même une famille qui est pratiquement là à tous les rendez-vous. Et au fond, pour cette 8e candidature, Marine Le Pen apparaît plus normale que jamais, ce qui est assez étonnant. Et au fond, Éric Zemmour, il a sans doute rendu ce service-là.
Alvaro Canovas, il y a plusieurs photos dans mm-hmm. cet article avec le reportage de Mariana Grépinet. Il y a cette photo-là, qui est la photo du bureau dans le 7e arrondissement. Et ça, c'est une photo qu'on n'a jamais vue, c'est ça ? C'est un endroit,
non, c'est un endroit
assez secret.
Absolument, c'est un endroit secret. En fait, c'est juste un appartement qui est loué par l'équipe de campagne, le temps de la campagne, à deux pas du Champ de Mars. En fait, on devait faire une photo d'elle et son équipe, rapprochés de campagne, au QG. On a manqué de temps, elle a passé beaucoup de temps à l'Assemblée nationale les jours précédents. Enfin, on a manqué de temps. Finalement, ils nous ont proposé de la faire dans cet appartement. Ça s'est fait assez simplement. Hein. On est les premiers à y être entrés, mais l'endroit n'a rien de secret.
Il y a quelque chose de grisant quand on se dit on rentre dans le bureau secret d'une candidate à la présidentielle. Personne n'a jamais vu cet endroit.
Non,
on s'attend à quelque chose de...
Non, mais oui, alors on pensait peut-être, oui, avec des écrans d'ordinateur partout, des choses comme ça. Non, en fait, c'est juste un appartement. En fait, ce qui est grisant, c'est, ce qui est amusant, c'est voir la tête des gens qui nous voient rentrer en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Normalement, personne ne rentre. » Voilà, les gens de l'équipe.
Il y a quelques photos posées. Elle pose, Marine Le Pen, ou elle attend que vous fassiez vos photos ? Comment ça se passe ?
Elle pose si on lui demande. Elle est devenue plus coopérative. Enfin, elle a toujours été, je trouve... Elle était par le passé, je l'ai photographiée quelques fois, plus difficile. Elle s'est professionnalisée. Elle a acquis un certain sens de l'image, je trouve, avec le photographe.
Pascal Sault, Marine Le Pen, et bien sûr, je vous donnerai la parole, Louis Dragnel, hein, ne me regardez pas comme ça.
Tout va très bien,
Pascal Sault, Bruno Jeudy le rappelait tout à l'heure. La famille Le Pen, c'est une histoire, effectivement, dans la vie politique française, évidemment. Il y a eu des rebondissements dans les présidentielles, dans les candidatures à la présidentielle de Marine Le Pen, notamment l'histoire des assistants parlementaires que vous aviez révélés à l'époque.
Oui, alors c'était au début de l'année dernière, enfin au mois de mai 2021. En fait, on avait révélé la synthèse de l'enquête de police qui était conduite depuis 5 ans par l'Office central spécialisé dans ces questions. Et en fait, c'était une conclusion. Les conclusions de ce rapport étaient très, très dures. Elle disait en fait que le Rassemblement national avait mis en place un système organisé de détournement de fonds publics du Parlement européen pour alimenter, nourrir la vie politique de militants travaillant ou de salariés travaillant pour le parti et non pas pour le Parlement européen. Donc la somme qui était avancée est assez importante, hein, c'est près de 7 millions d'euros, 6,8 millions, si je me rappelle bien. Évidemment, cette question-là, à un moment, elle a pu faire peser une menace sur la campagne de Marine Le Pen cette fois-ci, parce que si le procès avait eu lieu avant, et elle pouvait être déclarée inéligible. Là, ça aurait été un espèce de coup de tonnerre. Et en fait, bon, ces avocats ont fait très bien leur travail, en l'occurrence, il faut le reconnaître. Donc, le procès aura lieu après. Donc, c'est à la fois un problème qui est derrière elle et qui est en même temps devant elle. Si elle est élue, évidemment, présidente de la République, qui ne se posera pas avant 5 ans, si elle n'est pas élue, le problème risque de se poser dans le courant de l'année, voire l'année prochaine.
Avec ce genre d'affaires, Louis Dragnel d'Europe 1, c'est aussi pour ça que Marine Le Pen est une candidate singulière.
Singulière et en même temps, elle est mise en cause dans une affaire dans laquelle d'autres partis sont aussi mis en cause. Le Modem a pratiqué la même chose. Il y a une enquête, la justice s'est beaucoup intéressée aussi à ce qui a été fait. Marielle de Sarnez est maintenant morte, mais elle avait été impliquée dans ce dossier et d'ailleurs, elle avait quitté le gouvernement à la suite de cette affaire-là.
Ainsi que Bayrou.
Ainsi que François Bayrou, absolument. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que c'est un système industrialisé qui est fait pour essayer de détourner de l'argent du système et vraiment fait de manière cynique, ou est-ce que c'est simplement une espèce de dérive de pratiques qui ont toujours eu lieu. Et j'ai le sentiment, s'agissant du Rassemblement national, qu'il y a une partie, en tout cas, des fonds qui ont été détournés et vraiment tout a été fait de manière... ça a été fait sciemment. Et de l'autre, il y a des dérives qui sont liées aussi à la pratique de la vie politique. Je vous donne un exemple. Je rebondis sur quelqu'un d'autre. François Fillon, qui est mis en cause parce que son assistant parlementaire a participé à l'écriture de son livre.
Oui.
Et là, la justice... Et c'est là où je me dis que parfois, la justice ne comprend pas ce que c'est que la vie politique. La vie politique, c'est à la fois, quand il y a des collaborateurs, c'est à la fois des travaux d'écriture, ça va être parfois de répondre au téléphone de voisins, d'administrer, d'électeurs, pour s'intéresser à des situations individuelles. La politique, c'est un peu tout ça. Et je trouve, moi, ce que je regrette un peu, si on dézoome un peu sur cette affaire, c'est cette espèce d'immixtion, quand même très régulière, très fréquente. Pour l'instant, ça n'a pas encore commencé dans cette campagne présidentielle, mais dans la vie politique, je trouve qu'il y a des pratiques qu'il faut assainir. Mais le mythe de vouloir avoir la transparence partout en politique, ça donne une vie politique totalement aseptisée, avec des personnalités qui n'ont plus de saveur, plus d'odeur. Je ne vous dis pas que je suis en train de faire un plaidoyer pour la fraude et l'illégalité.
Mais
je vous dis simplement que voilà, la vie politique, c'est plus complexe qu'une vision sur papier glacé. C'est pas un métier comme les autres, c'est une fonction qui est tout à fait singulière. Et donc, je trouve que voilà, c'est toujours plus sain quand la justice n'essaye pas d'intervenir dans l'organisation des scrutins et particulièrement de l'élection présidentielle.
Alvaro Canovas, quand vous entendez justement ce qui est dit sur la façon dont effectivement tout ça appartient, hein, aux candidats à la présidentielle, quel genre de femme vous avez trouvé, vous, quand vous la photographiez? L'œil du photographe, ce n'est pas juste une silhouette. Il y a évidemment toute une posture. Comment est-ce que vous l'avez trouvé en tant que femme politique et en tant que femme tout court, tout simplement?
En tant que femme? Alors, je peux comparer avec les deux autres candidates que j'ai photographiées avant. Ce sera plus facile. Avec Anne Hidalgo, on est beaucoup plus... Dans l'intimité, dans la séduction. Valérie Pécresse est assez copain, un peu boy scout, on se tutoie, etc. Marine Le Pen, elle est plus difficile d'accès. Et Marine Le Pen a besoin qu'on se rencontre pour la première fois, même si on s'est déjà rencontré, de montrer que c'est elle, un peu d'écraser un petit peu l'autre. Il y a une espèce de joute comme ça. Et une fois qu'elle a... Même avec le photographe.
Elle a besoin d'écraser l'autre.
Elle a besoin de montrer qu'elle est...
Objectivement, elle en a pris tellement plein la figure, honnêtement, pendant des années.
Une sorte de méfiance, en fait.
Et ça a commencé quasiment dès le berceau. Faut quand même imaginer que... Non mais honnêtement, tout le monde dit qu'elle a vécu dans un château et tout ça. La réalité, c'est qu'elle a quand même vécu assez jeune. Il y a eu un attentat quand même, Villa Poirier, dans le 15e arrondissement, là où elle habitait. Donc elle a eu une confrontation avec les conséquences de la vie politique assez froide. Et ensuite, on ne va pas dire que la presse a toujours été très tendre à l'égard de Marine Le Pen pendant des années. On voit qu'elle fait des efforts. Moi, je vois les relations que nous avons, par exemple, ici même, à Europe 1, avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, elles sont assez saines. C'est des relations très professionnelles. Vous parliez tout à l'heure de professionnalisation de Marine Le Pen. Nous, c'est ce qu'on constate également dans les échanges, les rapports avec son équipe.
Vous l'avez suivi plusieurs jours, Alfredo Canova?
Je l'ai suivi 3-4 jours, oui. 3-4 jours.
On dit souvent qu'elle est assez drôle, d'ailleurs. Elle blague. Ça s'est pas passé avec vous?
Oui. Non, si. Finalement, elle était plutôt sympathique. Ouais. Bon, je lui ai conseillé... Elle regardait dans le train un film. Elle regardait A Star Is Born. C'était assez drôle et je lui
ai dit... Avec
Lady Gaga, c'est un bon film, vous allez voir, etc. Puis j'avais oublié que la fin était finalement assez triste. Et le lendemain, elle m'a harponné devant tous les confrères en sortant de sa voiture en disant mais alors vous, je vous remercie pas, hein, parce que le film Feel Good, j'ai pleuré comme une madeleine. Alors tout à coup, elle m'écrase comme ça devant tout le monde. Et puis elle avoue quand même un peu ça. Ouais. Sa féminité, enfin voilà, je la vois
Mariana
avec une larme.
Mariana Lépinet en parle, effectivement.
Et Mariana, on fait l'ouverture de son papier.
De cette larme à l'œil. Pascal Sauve, vous vouliez rajouter?
Oui, juste un mot pour dire que finalement, malgré tout, le problème pour elle aujourd'hui, Bruno Jeudy l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est pas tellement celui-là, c'est le problème de gérer les conséquences de la ligne politique qu'elle conduit depuis plusieurs années, depuis la mise à l'écart de son père, qui est la dédiabolisation. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive au bout de ça? C'est l'ouverture d'un espace dans lequel s'est engouffré un nouveau personnage dans la vie politique, Éric Zemmour. Et voilà, c'est ça aujourd'hui.
Et il sera sans doute question de Marine Le Pen également dans le JDD ce dimanche. Pascal Sceau, j'imagine.
Oui.
L'actualité politique est vaste. Et en tout cas, en attendant, le portrait de Marine Le Pen. Marine Le Pen au pied du mur, c'est dans Paris Match, article signé de Mariana Grépinet. Avec vos photos, Alvaro Canovas, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
Merci à vous tous, merci Louis Dragnel.
Merci Pierre.
Merci Bruno Jeudy et merci à vous Pascal Sceau dans un instant le journal. Et juste après, il est philosophe, il veut tout simplifier. Il dit qu'aucun candidat ne le fait, alors il va le faire. Gaspard Koenig est candidat à la présidentielle. Pourquoi? Avec quel programme? Quelle perspective? Il est mon invité à 19h15. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et c'est l'heure de l'invité politique du vendredi. L'homme qui vous parle ce soir est philosophe. Son diagnostic de la France, il l'a fait au plus près des habitants, dont une partie à cheval, telle montagne. Le constat pour lui, c'est qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, mais d'abord en sortant des normes, c'est-à-dire, cela comprend les textes, mais aussi le personnel qui s'emploie à les faire et à les faire appliquer, d'où le nom de son mouvement, Simple, j'allais dire tout simplement. Bonsoir Gaspard Koenig.
Bonsoir.
Merci d'être là. Être candidat à la présidentielle, ça ne s'invente pas du jour au lendemain en se rasant, quoique. Qu'est-ce qui vous a fait sauter l'étape?
D'abord, moi, ça fait 10 ans que je suis investi dans le débat public via le think tank que j'ai créé, Génération Libre, que j'essaye de porter des idées fondées sur la liberté, sur l'autonomie, sur la responsabilité individuelle, que je ne vois pas portées dans les différents partis qui composent aujourd'hui l'échiquier politique. J'essaye de remettre en cause notre tradition jacobine.
Attention à ce que vous dites, la liberté individuelle, aujourd'hui, c'est les anti-vax qui portent cette idée.
Mais la liberté individuelle, c'est aussi les révolutionnaires français de 1789 qui la portent. C'est notre très belle déclaration des droits de l'homme. Et je pense que justement, dans des temps de crise sanitaire, sécuritaire et demain écologique, il est plus important que jamais de comprendre quel est notre héritage et de préserver ces libertés.
Et on a l'impression, vous avez l'impression qu'on mélange tout aujourd'hui?
J'ai clairement l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus compris à quoi servait la loi. Mmh. Et on considère que la loi, elle est là pour créer des emmerdements aux gens, je reprends les termes du président de la République.
De celui-là et d'un autre avant lui.
Et de Pompidou, mais qui avait une formule un peu plus judicieuse. Ouais. Et tout ça pour dire que ce constat, je l'ai fait, comme vous dites, sur le terrain, en logeant chez l'habitant pendant les longs mois que j'ai traversé la France à cheval. J'ai constaté que ce qui revenait tous les soirs au dîner, dans des circonstances différentes, dans des sociologies différentes, c'est que les gens avaient l'impression que les normes qui s'appliquaient à eux n'étaient pas respectables, mmh. et donc n'étaient pas respectées, ne s'appliquaient pas au terrain, étaient absurdes, et que tous ces acronymes qui constituaient leur environnement quotidien devenaient extrêmement pesants, contre-productifs, et qu'au fond, ça traduisait une défiance de l'État central vis-à-vis du citoyen, que le citoyen ensuite rend bien à l'État central, et ça explique, je pense, en grande partie notre crise démocratique, ça explique en grande partie le populisme, parce que quand vous ne pouvez plus comprendre la loi, quand elle n'est plus intelligible, eh bien, vous ne la respectez plus, tout simplement.
C'est-à-dire que les gens comprennent qu'il faut une loi, ils comprennent que l'État doit être normé, mais ils ne comprennent pas j'allais dire, le poids des normes, ce qu'ils représentent aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous avez entre 400 et 500 000 textes.
Qui sont tous appliqués.
Non, justement, parce que plus on fait une loi
mais qui peuvent servir,
absurde,
comme on dit.
Regardez, aujourd'hui, on vous impose le masque dans la rue, tout le monde sait que ça ne sert à rien, personne ne le met, mais voilà, une norme qui contribue à décrédibiliser...
Ça saute à Paris, là, en l'occurrence.
...continue à décrédibiliser l'état de droit, la police dit on ne va pas l'appliquer, le gouvernement dit on l'applique avec tolérance, autrement dit, on ne comprend même plus quel est le sens, en fait, d'une loi dans un état de droit. Et l'inflation normative, c'est un phénomène qui est... bien connu, qui est recensé tous les 5 ans par le Conseil d'État, qui écrit des rapports en expliquant que trop de droit tue le droit. Et simplement, sur le terrain, on voit que ceux qui en pâtissent, eh bien, ce sont ceux qui sont le plus éloignés des cercles de pouvoir, le plus éloignés des réseaux d'information, parce qu'eux n'ont pas les moyens de se défendre. Quand vous rencontrez des gens qui fondent des fermes auberges, c'est-à-dire qui font un honnête travail très simple à comprendre, qui est d'élever des bêtes et ensuite de servir à table... et qu'on se retrouve entre GAEC, entre SARL, à décompter des heures, à leur reporter de l'un sur l'autre. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, tout le monde le sent dans son quotidien. Prenez les agents du service public. Les profs se mettent en grève pour dénoncer l'absurdité des procédures sanitaires. Les chercheurs et les universitaires ont publié une tribune il y a quelques jours dans le monde.
On est les seuls au monde. Vous êtes allés voir chez les voisins européens, dans le monde entier. Il y a des normes aussi.
Bien sûr. D'ailleurs, David Graeber, qui est un grand anthropologue, qui a écrit pour moi le livre Magie majeure sur le sujet, sur la bureaucratisation, explique bien que c'est un phénomène qui concerne l'ensemble du monde occidental. Je pense néanmoins que la France, elle est un peu à l'avant-garde, si vous voulez, du sujet.
Je vous pose la question, parce que quand on parle, enfin moi, quand je parle avec des voisins, qu'ils soient polonais, allemands, suédois, ils nous disent, chez nous, c'est pareil. Suédois, un peu moins.
Mais ce n'est pas une raison, si vous voulez. Et on a quand même, on est un pays indépendant, et on a quand même le droit de considérer que cette situation n'est pas normale, que les gens seraient plus heureux, plus épanouis, s'ils avaient davantage d'autonomie, si on leur faisait un peu confiance pour faire des choses intelligentes qui soient adaptées aux réalités du terrain,
et là,
plutôt que toujours
Gaspard
les prendre
Koenig
pour des enfants.
Sur son cheval, et tac, tout d'un coup, plus de normes, plus de textes.
Ça ne s'est pas fait tout d'un coup, parce qu'après ça, j'ai fondé donc un mouvement simple. Je l'ai fondé déjà en mai dernier, je l'ai fondé assez discrètement. Et ensuite, j'ai repris mon...
Dans le sens, j'en ai pas fait effusion.
J'ai pas fait beaucoup de couverts de médias nationaux, de manière tout à fait intentionnelle. Pour pouvoir travailler, justement, travailler tranquillement. Et donc, j'ai repris mon bâton de pèlerin et pendant 3 mois, tout l'été, avec l'équipe que j'ai constituée, j'ai sillonné le pays et j'ai été récolter, justement, ces témoignages sur le terrain et via un site internet. On en a reçu plusieurs milliers. On les a travaillés avec un groupe de juristes de droit public que j'ai constitué et on en a tiré une proposition très radicale. On a baptisé Projet Portalis du nom du juriste qui simplifia le magma du droit féodal et qui créa le Code civil en 1804, un grand moment de refondation institutionnelle.
C'est pour ça que vous êtes un tiers Montaigne, un tiers Portalis et un tiers Pompidou, je crois.
Voilà, oui, si on veut. et donc, ce projet, si vous voulez, c'est un projet qui est non seulement sérieux, mais qui, au fond, vient de loin, vient de plusieurs années de travail théorique, vient de toutes ces expériences sur le terrain, vient de réflexions avec un groupe de juristes. Et c'est seulement une fois qu'on a établi ça, on a vu que le sujet, que l'intuition, elle était vérifiée sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai fait des centaines de réunions avec des élus, des réunions publiques, du porte-à-porte, des associations, on discute de ça et on vous dit, bah oui, pour le handicap, c'est terrible, on est obligé de prouver tous les deux ans que notre enfant n'a toujours pas de pouce ou n'a toujours pas de bras.
Alors qu'il est né, oui.
Voilà, les artisans, pour, les plombiers chauffagistes.
Oui, pour toucher les aides, oui.
Oui, enfin tout simplement l'allocation à laquelle on a
oui,
droit.
Bien sûr, oui.
Les plombiers chauffagistes vous expliquent que le nouveau formulaire CERFA sur le tri des déchets fait qu'ils ne peuvent plus faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être à la fois les comptables d'eux-mêmes et exercer leur activité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se retrouvent dans des grandes structures mais qui, elles, ont la compta, le juridique.
Pardonnez-moi, Gaspard voilà. Koenig, mais ce constat, on parlait tout à l'heure de Marine Le Pen avec mes confrères du JDD et de Paris Match. Marine Le Pen, comme d'autres candidats, va au contact des populations. On parle des fins de mois, elle recueille. On a parlé d'Éric Zemmour également dans le journal. On recueille comme ça la photo, l'instant T du quotidien des Français. Il y en a un autre qui a fait un diagnostic aussi, parce que ça a été un des pans de sa campagne en 2017, c'était Emmanuel Macron qui avait fait un diagnostic avant même de ce. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus, j'allais dire, dans votre approche, à part, j'allais dire, le cheval? Et il faut quand même nous expliquer cette histoire de cheval, parce que c'est assez anachronique, j'ai envie de dire.
Le cheval, c'était le projet précédent. C'est parce que j'avais fait d'abord une longue enquête sur l'intelligence artificielle. Et j'avais envie de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de voyager en profondeur, de voyager lentement, de réhabiliter l'aléa en suivant donc les traces de Montaigne, qui est le philosophe de l'inopportun, de l'inattendu. Et j'avais surtout envie, via ce moyen de transport un peu effectivement étonnant, de toquer aux portes et de susciter.
Et
ou
alors
non,
quand même, il y a un type qui arrive à cheval, il toque à votre porte. C'est quoi la...
ce qui est formidable,
la réception.
Ce qui est vraiment formidable, c'est que bien sûr qu'il y a des problèmes d'insécurité dans ce pays. Mais néanmoins, j'ai traversé la France pendant 3 mois du sud-est au nord-ouest. J'ai été vraiment très bien accueilli. J'ai été logé, nourri, blanchi. Les gens m'ont donné un coup de main pour aller chercher le veto, pour trouver des granulés et du foin. Enfin, j'ai trouvé une France accueillante, généreuse, débrouillarde, souvent avec plein de difficultés, souvent avec pas beaucoup d'argent, mais d'autant plus solidaire justement que la vie est dure. Et ça donne une image quand même très positive du pays. Et quelque part, ça donne encore plus envie de s'investir en politique et de faire quelque chose pour que les gens puissent vivre leur vie, parce qu'ils la vivent bien, qu'ils ont plein de projets, qu'ils ont plein d'initiatives dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la solidarité locale, qui sont aujourd'hui inhibés par un système central.
Oui.
Qui les empêche véritablement d'aller jusqu'au bout de leurs rêves.
On va parler justement de votre programme, de la façon dont vous allez l'articuler, juste après une première pause. Nous sommes dans les débats d'Europe Soir et mon invité est le philosophe et désormais candidat à la présidentielle, Gaspard Koenig. Restez avec nous.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Retour sur le plateau d'Europe Soir avec le philosophe Gaspard Koenig, désormais candidat à la présidentielle. Gaspard Koenig, ça vous tente l'Élysée à titre personnel? Parce que pour citer Montaigne, que vous affectionnez particulièrement, oui, il dit « Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul ».
Absolument. Et justement, à titre personnel, moi, je n'ai jamais rêvé d'être président de la République. Et je trouve d'ailleurs que cette élection du président de la République au suffrage universel est plutôt quelque chose qui nuit à notre fonctionnement démocratique.
Ah, comment on devrait faire?
Il y a une démocratie représentative qui marchait très bien, je pense, jusqu'en 1962, très exactement. Cette élection, elle est un peu plébiscitaire. Elle repose beaucoup sur la personnalité d'un homme et assez peu, en fait, sur le débat d'idées. Et je pense que c'est pour ça que la France se réforme, au fond, très peu et très mal. C'est que je vois très bien, pour y avoir participé de plus loin, dans mes fonctions au think tank, comment se passe une campagne présidentielle. C'est tellement difficile d'y arriver, de se faire apprécier, d'être partout sur le territoire, d'avoir les bonnes alliances, qu'en fait, le programme, c'est le dernier truc que vous faites sur un coin de table, en 3 mois, avec quelques énarques. Et quand vous êtes élu ensuite, vous faites vos 2-3 mesures symboliques et vous êtes repris par les affaires courantes. Et puis, place au suivant. Et je pense que...
C'est quelque chose que vous reprochez au président sortant, notamment ?
Complètement. Le président sortant, il a été quand même élu sur la promesse d'une révolution. Et on peut dire que sur le plan structurel, les réformes qui ont été faites sont extrêmement timides. Mais je pense que les gens comprennent bien...
Qu'est-ce que vous lui reprochez le plus ?
Enfin, juste pour finir, puisque vous m'interrogez là-dessus, ce que les gens comprennent bien, c'est qu'un homme qui a réponse à tout, c'est pas possible. Et que cette promesse, elle est forcément déçue. Et que donc, il faut, je pense, afficher une attitude plus modeste, de dire, moi, j'ai un certain nombre de sujets qui sont vraiment fondamentaux, qui débloquent les choses, qui permettent ensuite aux gens de trouver leurs propres solutions. Mais je n'ai pas réponse à tout, je ne couvre pas tout.
Il ne l'a pas fait dernièrement quand il a dit « j'ai appris », notamment dans cette grande interview sur TF1.
Mais moi, j'ai trouvé cette interview incroyablement paternaliste, parce qu'il nous explique qu'au contact des Français, il a appris à mieux les apprécier, à mieux les aimer. Enfin, on a vraiment l'impression d'un monarque qui parle du bon peuple. Et je pense que c'est le biais de nos institutions, mais que ce biais a été renforcé par cette présidence qui a recentralisé le pouvoir, si c'était encore possible, à la fois sur le plan de l'organisation du territoire, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation, le plan évidemment institutionnel, avec ces états d'urgence permanents qui ont dénué au Parlement sa fonction légitime, et sur le plan économique, avec la création de hauts commissariats au plan, de grands plans d'investissement. Enfin, c'est un pouvoir très centralisé aujourd'hui, et je pense que c'est ça le problème principal de ce pays, c'est de ne pas faire confiance à l'initiative locale, au plus petit échelon, que ce soit l'individu, la commune ou l'entreprise.
Est-ce qu'il y a des pays étrangers ? On parlait justement des pays étrangers. Est-ce qu'on doit s'inspirer de certains pays ?
Moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est des reportages. Et j'ai été tester des idées justement de liberté, d'autonomie dans différents pays. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un pays qui incarne la liberté, mais je dirais que sur certains sujets, on peut aller voir ailleurs des choses qui ont marché.
Par exemple ?
Par exemple, en Suisse, les procédures de démocratie directe au niveau local
sont,
je trouve...
Il y a trois cantons qui...
Pas du tout. Moi, j'ai été assisté à des Landsgemeinde 2. Alors, j'y étais, donc je vais vous le dire.
Il y a trois cantons où on vote à main levée.
Oui, bien sûr, mais les autres cantons, on ne vote pas à main levée, mais on vote quand même.
On vote quand même, oui.
On vote quand même. Excusez-moi, on vote sur la moitié des lois suisses, sont des lois locales, et on vote sur des choses extrêmement...
Mais c'est parce que c'est un pays fédéral et il y a des cantons.
Laissez-moi finir. Et on vote sur des choses extrêmement importantes, sur l'impôt sur le revenu, sur les jours de congé des fonctionnaires locaux, sur une route qui doit passer ici ou là. Et on donne la responsabilité aux gens, par la voie du référendum, d'exprimer leur opinion sur des sujets qu'ils maîtrisent bien, parce que ce sont des sujets locaux.
Bon, moi, il y a 67 millions de personnes en France.
Mais
ça va être difficile.
Vous pouvez avoir autant de communautés qui s'organisent et qui prennent leur destin en main. Et moi, j'y ai été en Suisse, donc j'ai été assisté à la Landsgemeinde de Glaris, j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai trouvé ça tout à fait remarquable, parce que c'est véritablement ce que Tocqueville appelait l'essence de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe, la démocratie locale. Je pense que c'est quelque chose qui n'est d'ailleurs pas impossible en France aujourd'hui, puisque le référendum local est quelque chose qui se développe, mais c'est quelque chose qui gagnerait à être développé, à être plus contraignant. Et je pense de manière générale qu'il faut donner plus d'autonomie au plus petit échelon, autonomie fiscale, autonomie démocratique, autonomie réglementaire. Si on continue sur les exemples étrangers, j'ai été voir au Colorado la libéralisation du cannabis. La libéralisation du cannabis, ça permet de faire baisser la criminalité, bien sûr de faire baisser le trafic, de faire entrer de l'argent dans la caisse de l'État et d'avoir une vraie politique de santé publique pour soigner ceux qui sont... dans des processus
d'addiction. Vous connaissez les dérives sur la légalisation du cannabis aussi.
Je les ai pas
vus. Les risques de dérive.
Excusez-moi, mais j'y ai été. J'ai regardé comment ça s'est passé. Justement, moi, j'ai une démarche très pragmatique. Je confronte mes idées au réel. Je pense que c'est ce que je fais pendant tous mes voyages. Et j'ai trouvé que ça, ça marche bien. Et qu'en France, aujourd'hui, on a un énorme problème d'état de droit lié justement au trafic du cannabis qui pourrait être largement résolu par la légalisation. Et par ailleurs, je trouve que c'est aussi une question de liberté fondamentale d'être... en mesure, quand on est un adulte libre, éclairé, et c'est le cas de le dire, vacciné, de faire ce qui ne nuit qu'à moi-même.
Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que quelle position vous avez sur ceux qui ne sont pas encore vaccinés et qui manifestent d'ailleurs de temps en temps, enfin, même de plus en plus souvent.
Alors, j'ai toujours été opposé au pass sanitaire et au pass vaccinal, très clairement. Je suis favorable à la vaccination, je suis vacciné moi-même, j'encourage les gens à se faire vacciner. Mais je pense qu'à partir du moment où la non-vaccination est légale, puisqu'aujourd'hui, il est parfaitement légal de ne pas être vacciné, à ce moment-là...
Il y a des contraintes maintenant,
Oui, mais justement, ce n'est pas ça le rôle de la loi. Et on revient à notre discussion précédente. Le rôle de la loi n'est pas de créer des souricières pour contraindre les gens à adopter certains comportements.
Et donc, le reliquat de ces personnes, qui est quand même très très faible en France, qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'on en fait ?
Écoutez, aujourd'hui, si, comme on nous l'annonce, la situation s'améliore parce que Omicron est moins dangereux, moins létal que l'était son prédécesseur. Et si on s'aperçoit que le début de saturation des services de réa que nous voyons, commence à retrouver, disons, une certaine normale, si nous sommes dans cette situation, et je dis bien si, alors je trouve tout à fait normal que les gens puissent exercer leur liberté de conscience en refusant d'être vaccinés et que l'hôpital les soigne.
Donc on devrait laisser tranquille.
Et que l'hôpital les soigne parce qu'un médecin a prêté le serment d'Hippocrate et ne doit pas demander aux gens leurs opinions. Enfin, il peut leur demander, mais il ne doit pas prendre en compte les opinions, les pratiques des gens. Moi, je pense qu'il faut faire œuvre de beaucoup plus de pédagogie. On a beaucoup trop vite été sur,
justement, la
pédagogie, sur la contrainte.
Ouais. Notamment pour le personnel soignant qui parfois ne comprend pas et qui dit tiens, voilà, cette personne n'est pas vaccinée, donc elle a quand même beaucoup plus de chances d'être en mauvaise santé. Et il y a justement dans les hôpitaux, on a entendu il y a une vraie. Non pas grogne parce que c'est pas le mot, mais c'est très très pesant pour le personnel soignant.
Et je comprends ça. Et on est on est en épidémie. Donc forcément, c'est une situation qui est très dure pour le personnel soignant.
Ah oui. Et ils l'ont connu quand il n'y avait pas les vaccins.
Et heureusement que le personnel soignant est là pour soigner tout le monde sans justement faire de distinction. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces médecins qu'on voit notamment s'exprimer publiquement et qui disent « Moi, j'ai évidemment des sentiments personnels par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés, que je partage à titre personnel, mais c'est mon devoir de ne pas en faire état et de les soigner comme tout autre malade. »
Et vous avez de l'admiration aussi pour les médecins qui demandent de signer une décharge quand on est non vacciné ?
Et non, je ne pense pas que ça doit se passer comme ça. Je ne pense pas qu'on peut commencer à organiser une société où on soigne certaines personnes.
Donc vous les blâmez, ceux-là.
On ne soigne pas d'autres personnes. Après, s'il y a un problème de saturation critique et durable des services de réa, qui visiblement n'est pas la situation actuelle, puisqu'il semble que cette vague soit en train de passer. Mais admettons, d'accord, que l'on soit dans une situation critique et durable sur les services de réa, et que donc les non-vaccinés commencent à créer un véritable dommage au reste de la société, à ce moment-là, la seule mesure qui me semble justifiable, c'est la vaccination obligatoire, peut-être pour les plus de 50 ans ou 60 ans, comme l'a fait l'Italie, c'est-à-dire pour ceux qui posent véritablement problème dans ces services. Mais je préfère largement ça sur une population ciblée et avec une obligation donc qui doit être respectée et qui doit être fait respecter par l'État, que cette espèce de truc très sournois où chacun doit donner son pass et où la population se surveille elle-même.
Pour information, on est à 77% de tension réa en ce moment dans le pays. On parlait de la simplification. Je reviens juste un instant sur l'exemple que vous avez pris en Suisse. Et ça m'a étonné quand vous avez dit que, justement, on devrait peut-être développer ce genre de démocratie participative, alors que vous avez dit il y a une dizaine de minutes que finalement, le suffrage universel, on votait à la tête du client. Donc, c'est un peu antinomique.
Non, pas du tout, parce que je distingue complètement de ce point de vue-là le niveau local et le niveau national.
Ça veut dire qu'au niveau local, on est plus intelligent ?
On connaît mieux les problèmes qui se posent.
Ah.
Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, d'ailleurs, les Suisses, puisque vous en parlez, ont commencé par la démocratie au niveau cantonal pendant plusieurs siècles, avant de passer à la votation nationale au 19e siècle. Mmh. Ce n'est pas un hasard si Tocqueville lui-même dit il faut commencer. La démocratie locale, c'est l'apprentissage de la démocratie. C'est comme quand vous êtes dans votre syndic de copropriété, vous apprenez à faire des compromis, vous apprenez à comprendre les problèmes des autres et vous gérez des situations qui sont extrêmement palpables, extrêmement tangibles. En revanche, je trouve que le référendum d'initiative populaire au niveau national est un instrument dangereux qui, effectivement, ouvre la voie aux pires démagogues. Mais au niveau très local, vous ne pouvez pas vraiment avoir un démagogue parce que les gens, ils connaissent le terrain, ils voient et vous ne pouvez pas les tromper autant.
Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le syndicat de copropriété. Ça me fait rire parce que je crois qu'on n'a pas le même personnellement, vous et moi. Vous proposez une société de confiance, d'adultes, de vivre ensemble. C'est ce que j'ai lu dans votre programme. Mais tout le monde n'aime pas ça, le vivre ensemble.
Ce que je dis très précisément, c'est que c'est par la confiance, par la confiance qu'on fait à l'individu, parce qu'on pense que quand on remet la loi au bon niveau d'intelligibilité, quand on donne de l'autonomie, encore une fois, à la commune, à l'entreprise, aux citoyens, donc quand on lui fait confiance, eh ben, il se comporte de manière...
Il ne l'enfreint pas.
...plus responsable. Il faut, d'ailleurs, vous parliez de Montaigne au début, c'était vraiment la grande leçon de Montaigne. Mm-hmm. Pour recevoir la confiance, il faut commencer par la donner. Le fait que nous soyons dans une société de défiance, c'est le constat de Perfit dans les années 70. C'est quelque chose qui est largement aujourd'hui démontré par les études sociologiques. Et on est dans une société de défiance où tout de suite, dès qu'il y a un conflit, par exemple, même un petit conflit, un petit litige, on va aller voir le juge, on va aller voir l'État, on va appeler les flics, on va appeler la police. On n'essaye pas de résoudre le problème entre nous.
Mmh. Et je peux vous dire qu'en Suisse, on appelle la police assez souvent.
Regardez le succès des procédures...
Mon voisin est mal garé, allô la police, venez enlever la voiture.
Regardez le succès des procédures de médiation. J'étais voir des médiateurs à Bordeaux. Bon, et ben quand vous mettez deux personnes qui ont un conflit de voisinage classique et qui sont immédiatement en train d'appeler le juge en train d'avoir recours à la norme, quand vous les mettez dans une pièce et que vous les incitez simplement à se parler pour qu'on comprenne pourquoi la clôture est trop haute, pourquoi la haie est faite comme ça, pourquoi la cabane fait de l'ombre ou quoi que ce soit, et bien dans 75% des cas, vous résolvez le litige sans avoir besoin d'aller devant les tribunaux. Ça, c'est un bon exemple de société de confiance où... on organise de manière institutionnelle des espaces où les gens peuvent débattre, peuvent se parler, c'est un peu la même chose avec la démocratie locale, et peuvent résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes.
Gaspard Koenig, philosophe mais aussi candidat à la présidentielle, revient dans un instant sur le plateau d'Europe 1. Restez avec nous.
Europe Soir, Pierre de Villeneau.
Avec Gaspard Koenig, candidat à la présidentielle depuis cette semaine. D'ailleurs, tiens, ça c'est une question, effectivement. Pourquoi là, maintenant, tout de suite, cette semaine? Vous avez eu le déclic, là?
Non, j'étais pas prêt avant. Je vous ai dit, ça a été un long processus.
Et c'était calculé déjà il y a quelques semaines que ça serait cette semaine-là? Non.
Non, ça c'était un long processus de fonder un mouvement politique, de faire une proposition crédible, de constater que des gens suivaient, qu'on avait une communauté. Oui. Voilà, et ensuite, on a décider d'une date pour la déclaration de candidature une ou deux semaines avant. Oui.
Je vois sur votre veste un pins. C'est même pas un pins, c'est comme on appelait ça à une époque, parce que ça revient à la mode. C'est un peu plus gros qu'un pins, il y a écrit simple dessus. Ça, c'est le trend, j'allais dire, de votre, pour prendre un anglicisme, qui va pas plaire à certains auditeurs, mais en tout cas le pilier de votre programme. Alors, il y a effectivement quelques phrases sur la simplification que j'ai lues. Simplifier, c'est libérer la création d'activités en donnant de l'air aux artisans, aux petits entrepreneurs, etc. C'est améliorer la sécurité en libérant les policiers de la charge administrative de la politique du chiffre, d'accord. Simplifier, c'est permettre aux entreprises de faire leurs propres choix d'investissement et de prendre leurs propres risques en supprimant autant de subventions que d'impôts, c'est-à-dire.
Nous, ce qu'on propose, on va décliner la simplification à l'ensemble des sujets de politique publique. Oui. Et on fait ça, à droit constant et à coût constant. Et donc, sur l'entreprise, aujourd'hui, on dit que les entreprises sont les plus taxées d'Europe. C'est vrai, mais c'est aussi les plus aidées d'Europe. Mm. Et donc, ce qu'on propose, c'est quelque chose de très simple, c'est de supprimer 50 milliards d'impôts d'un côté, y compris de baisser l'IS à 20% pour entrer dans les détails, et de supprimer 50 milliards d'aides et de niches fiscales de l'autre. Et donc, vous voyez, vous avez le même poids fiscal.
Mais est-ce que ça
pour l'entreprise, vous avez les mêmes recettes.
Ce ne sont pas les mêmes entreprises.
Pour l'État, ça crée effectivement quelques déséquilibres parce que certaines bénéficiaient de plus de réduction d'impôts qu'elles payaient d'impôts, etc. Oui, il y aura un ajustement.
Les secteurs,
Il y aura un ajustement. Mais au lieu ensuite de passer leur temps à de faire des demandes de crédit d'impôt, de subvention, d'un côté, vous savez qu'il y a plus de 3500 aides différentes aux entreprises. Ouais. C'est des départements entiers, voire des cabinets d'audit qui gèrent ça pour elles. Et donc, comme toujours, c'est les gros, en fait. Hein, on parlait des différents secteurs, différentes entreprises. Mais en fait, c'est les gros qui, comme toujours, bénéficient le plus de la complexité parce qu'ils peuvent engager des gens qui la décryptent pour eux. Et c'est les petits qui, eux, ne trouvent jamais le bon créneau, la bonne niche, le bon truc et qui prennent le taux maximum. Alors, donc, si cette réforme change quelque chose, c'est que, elle va rendre de l'autonomie aux entreprises. On ne va plus leur dire quoi faire, où investir, comment être incité, etc. On va leur dire maintenant, vous faites vos propres projets et puis l'État n'a pas à se prononcer moralement sur les investissements que vous faites, qui sont légaux. Et puis, deuxièmement, c'est quelque chose qui va plutôt bénéficier aux plus petites structures qui, elles, ne peuvent pas déployer tous ces moyens pour gagner des niches ici ou là.
Alors justement, j'en prends une dernière. Simplifier, c'est désengorger les tribunaux en clarifiant le droit et en privilégiant toujours les médiations. Ça, Gaspard Koenig, j'ai envie de dire, tout le monde a essayé.
Tout le monde n'a pas essayé parce que le projet, le cœur du projet, c'est justement ce projet de simplification radicale du droit. Ce projet, on l'a encore une fois construit avec des juristes, docteurs en droit public. Et il consiste non pas à faire une énième commission de simplification qui se demande quelles normes on va ôter. Et à ce moment-là, on en enlève une, mais il y en a deux qui reviennent et puis quatre qui reviennent par la porte parce que la machine à produire de la norme, elle est toujours là. On fait tout l'inverse. On se demande quelles normes on va garder. Et donc, on recodifie l'ensemble du droit français en remontant au
c'est
grand...
C'est du travail.
Oui.
Ça va mettre au moins un quinquennat.
C'est du travail, mais c'est du travail d'abord. C'est du travail qui ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est du jus de cerveau. C'est des juristes, c'est la société civile. Et donc, on dégage les grands principes généraux. Et ensuite, on dit, voilà, seuls ces principes ont valeur législative. C'est-à-dire que la promesse, c'est de diviser par 100 le nombre de normes. C'est très radical. Et de pouvoir faire tenir le droit français en un volume. Ce qui est à la fois radical et utopique, et le minimum, au fond, dans un état de droit. Imaginez que tous les Français reçoivent le droit accessible.
Voici le droit
lisible,
de votre pays.
Intelligible.
Droit pénal, droit des entreprises, droit du travail, droit social, droit tout.
Et si vous voulez, c'est un peu le minimum qu'on puisse exiger. Et c'est quelque part l'équivalent de la révolution protestante dans la lecture de la Bible. C'est que tout d'un coup, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires pour avoir accès à la loi qui vous gouverne. Et c'est là que vous en êtes mieux protégé, parce que vous pouvez directement vous en réclamer, parce que vous la comprenez et que vous pouvez l'adapter au terrain, à votre propre situation, et qu'elle vous laisse une marge de manœuvre pour agir sans vous engoncer dans des procédures millimétrées.
C'est là où il faut se mettre d'accord. C'est la marge de manœuvre. Est-ce que les Français seront capables d'avoir cette marge de manœuvre pour se dire, bah, tiens, dans ce cas-là, on me propose un choix alors qu'avant j'en avais 25.
Mais c'est pareil.
On va les entendre là-dessus. Et vous parlez de la médiation. Mais ça a encore bon courage pour la médiation, puisque vous dites qu'on est dans un pays justement où on est procédurier et indiscipliné.
Précisément, je pense qu'aujourd'hui, on a créé le cercle vicieux de l'infantilisation. Et donc, plus on traite les gens comme des enfants, plus tout le monde fraude, plus on leur fait faire remplir des attestations débiles pendant le Covid, plus les gens font n'importe quoi, en mettent plusieurs dans la poche. Alors que dans un système responsabilisant, c'est là que les gens, petit à petit, construisent leur rationalité, leur espace de liberté. Et oui, j'ai confiance en ça, parce que d'abord, je l'ai vu à l'œuvre dans les expériences que j'ai été visiter, j'en parlais, à l'étranger. Et je ne pense pas que les Français soient par nature un peuple... on dit qu'il faille gouverner avec la trique. Je pense qu'on est en fait très 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 bien positionné, très cultivé de manière générale et capable de prendre notre destin en main. Et si on ne croit pas ça, franchement, pourquoi faire de la politique ou s'investir dans le débat public? Vous savez qu'il y a un responsable politique dont je tairai le nom qui m'a dit un jour, les Français sont comme un oiseau dans une cage, si on ouvre la porte de la cage, ils ne vont pas en sortir. Et bien moi, je fais le pari qu'ils vont en sortir, qu'ils vont mettre d'abord une aile, deux ailes et qu'ensuite ils vont être très heureux à l'air libre.
Vous faites un focus dans le programme sur le président de la France, mais un président, surtout au président de la cinquième puissance mondiale, il y a beaucoup à l'international. Quel genre de président vous serez à l'international?
Alors, toute l'idée, c'est de d'abord faire le ménage en interne, si je puis dire, pour retrouver, moi, ma France, c'est un peu celle de 1789, et pour retrouver fermement la France de la Déclaration des droits de l'homme, l'état de droit. Et ensuite, je pense que la France sera d'autant mieux placée pour, dans le cadre des institutions internationales, promouvoir cette conception de la liberté, cette conception de l'état de droit dans le reste du monde.
Et vous serez un chef militaire aussi, avoir le fine line code sur les opérations de théâtre extérieur, envoyer le porte-avions à tel endroit, de dire ce qu'on fait de l'Europe de la défense, qui est très critiquée en ce moment, justement.
Mais vous savez, ça revient un peu à ce que je disais au début. Je pense qu'il faut être modeste, ne pas penser, parce que c'est facile de se faire faire une fiche sur la politique de défense et d'avoir tout d'un coup un avis sur la politique de défense. Et au fond, c'est plus difficile.
On peut pas vivre toutes les expériences du monde, Gaspard Koenig.
Voilà. Et c'est
on vit combien de temps?
Non, mais justement, et ce que je vous dis, c'est que je ne vais pas décider seul de tout. Je ne me prendrai pas pour le chef des pompiers, pour le chef des médecins, pour le chef de l'urbanisme.
Donc le président, pour vous, n'est pas le chef des armées?
Je saurais... Bien sûr, c'est le chef des armées, mais il faut surtout qu'il sache écouter ceux qui sont sur le terrain, leur donner de l'autonomie pour agir, parce que ceux qui sont le plus proches du terrain sont ceux qui savent le mieux. Et d'ailleurs, l'armée, de manière assez intéressante, quand on connaît un peu la hiérarchie militaire, est organisée comme ça. C'est à la fois, évidemment, très discipliné, très hiérarchique, mais en même temps, chaque soldat doit être capable, notamment en situation de combat, quand il n'a plus accès à sa chaîne de commandement, de prendre des responsabilités. Et toute la formation du soldat tourne autour de ça, à un moment donné, pouvoir être autonome. Donc, je pense que c'est plutôt un modèle intéressant, mais ce qui vaut pour l'armée vaut pour les entreprises. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent d'un lien de subordination qui est trop rigide. Tout le mouvement de l'entreprise libérée bon, est un peu gadget parfois, mais repose sur un fondement intéressant, qui est comment vous donner de la responsabilité au plus petit agent pour que son travail retrouve un sens. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, si le travail est en crise, si on a ce que ce même Graeber appelait des bullshit jobs, des jobs où les gens ont l'impression de servir à rien parce qu'ils sont noyés dans les process, c'est parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et les industriels savent que quand ils commencent à faire confiance au plus petit échelon, à l'ouvrier de base, et tout d'un coup, l'entreprise se porte mieux et les gens sont plus heureux de faire leur travail.
Il nous reste 2 minutes. Les intentions de vote à J-87 dans le dernier sondage IFOP Fiducial, LCI, Paris Match. Emmanuel Macron à 26%, Valérie Pécresse à 17%. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Jean Lassalle arrive dernier à 1%. Vous allez faire combien et qu'est-ce qui se passe après?
Ça, d'abord, c'est les électeurs ou pour le moment les sondés qui vont le dire. Mais je pense que vous voyez dans cette immense...
Parce que vous avez dit que vous voulez surtout peser dans le débat
politique. Non, mais écoutez, il faut, comme disaient les Grecs, il faut viser le ciel pour toucher la cible.
Ouais.
Et dans le grand espace central qu'occupe aujourd'hui Emmanuel Macron, et où globalement je me reconnais, qui va du centre-gauche au centre-droit, aujourd'hui vous n'avez qu'une seule proposition, au fond. Et comme le dit avec beaucoup d'arrogance ce gouvernement, il y a une forme, ils s'arrogent une forme de monopole de la raison. Soit vous êtes raisonnable et vous votez pour nous, soit les autres sont un peu des fous, des amateurs.
Donc vous, par défaut, vous voudriez voter pour quelqu'un d'autre.
Non, et moi je pense que dans le camp de la raison, il y a la place pour de la concurrence. La concurrence, c'est toujours bon, ça fait évoluer les hommes et les idées. Et que Emmanuel Macron propose un libéralisme par le haut, très technocratique. Moi, je propose un libéralisme par le bas, qui fait d'abord confiance au dernier maillon de la chaîne et qui, ensuite, laisse émerger la prospérité, le vivre ensemble, la confiance.
Merci beaucoup, Gaspard Koenig, et bonne chance dans cette présidentielle qui est largement entamée, dans cette campagne présidentielle largement entamée. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans un instant, on retrouve le studio des légendes. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre. Effectivement, notre studio des légendes, comme chaque vendredi, avec Guy Roux, Jacques Vendroux, Charles Villeneuve, Fabien Otteniente, autour de l'interview exclusive au micro de Jacques Vendroux de Jean-Michel Aulas. On va débattre, évidemment, est-ce la saison de trop d'ailleurs pour Jean-Michel Aulas à l'OL, qui traverse une mauvaise passe actuellement, mais d'autres thématiques également autour de Bordeaux et autour de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est peut-être un petit peu fourvoyée dans son organisation, notamment dans les décisions d'arbitrage ces derniers temps. Et puis notre match de Ligue 1, coup d'envoi à partir de 21h, ce sera Nice-Nantes en intégralité sur Europe 1.
Merci Lionel Rousseau, nous on se retrouve demain à 18h et surtout ne loupez pas vendredi prochain, puisque c'est désormais un rendez-vous, la semaine politique Europe 1 JDD Paris Match. Très bonne soirée.